Suivant le journal avec Eda Lutindiko. Eda, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania-Bodé, bonjour à toutes et à tous. Situation sécuritaire toujours volatile au village Sikikédé dans les localités périphériques. Parallèlement, la situation humanitaire se dégrade, ce qui inquiète la coordination des affaires humanitaires. Yao Agbetsé alerte sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. L'expert indépendant de l'ONU en fin de mission dans le pays dénonce la montée abusive de la violation des droits de l'homme. La douane centrafricaine pourra désormais localiser les véhicules qui font des trafics dans le pays. L'institution dispose depuis vendredi de 1000 appareils de géolocalisation. Football CAN U20 au Caire en Égypte. L'entrée en compétition cet après-midi de la République centrafricaine. Les Fauves affrontent à 15h l'Ouganda.
Ouvrant ce journal au village Sikikédé dans la Vakaga, où depuis presque une semaine, après les combats qui ont opposé les rebelles de la CPC aux éléments des FACA, la situation sécuritaire et humanitaire n'est toujours pas améliorée.
Cette situation qui inquiète non seulement des habitants de cette localité qui sont toujours en brousse, mais aussi la coordination des affaires humanitaires au CHA. Parfait Eddy Komessé nous fait le point.
Les rebelles de la CPC sont revenus à Sikikédé après un bref retrait vers Haïfa, une localité voisine. Ils multiplient des braquages sur certains habitants qui tentent de regagner le village où aucune force légale n'est présente. C'est ce que témoigne cet habitant de Sikikédé qui trouve refuge en brousse, tout comme de milliers d'autres personnes.
On ne peut pas sortir comme ça, les braquages ne sont pas arrivés jusqu'à maintenant. Les rebelles ils sont dans la ville de Sikikédé et ils sont en train de fuir. Qui a de l'argent, les motos, on prend ça. Qui a des téléphones, on prend ça. Nous demandons l'arrivée du MINUSCA pour revenir à la maison.
Dans une note d'information, la coordination des affaires humanitaires au CHA, qui confirme le retour des éléments de la CPC à Sikikédé, parle d'un déplacement massif de la population de cette localité et de ses environs. Selon les premières estimations de OCHA, environ 4 300 personnes déplacées, soit 830 ménages, seraient en brousse à Gordil et 3 000 personnes en brousse à Diffa, soit 600 ménages. Le nombre des déplacés de Sikikédé n'est pour l'instant pas disponible. Des mouvements de la population à la frontière du Tchad et du Soudan ont été signalés. Aucun mouvement de la population n'est signalé sur l'axe Ndélé. L'hôpital de Sikikédé a été saccagé. Au moins 2 femmes ont accouché dans la brousse. Le taux de diarrhée et vomissement est devenu inquiétant. Alors que la situation humanitaire est alarmante, la coordination humanitaire annonce le report de sa mission prévue du 20 au 25 février dans la zone. La nouvelle date dépendra de l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain. En rappel, mardi dernier, des rebelles de la CPC ont attaqué une position des forces armées centrafricaines à Sikikédé, localité située à 205 km de Birao dans la Vakaga. Au cours de cette attaque, les rebelles ont pris en otage une vingtaine d'éléments des forces nationales.
Dans la suite de cette édition, les indicateurs des droits en République centrafricaine sont au rouge.
C'est ce qu'a déploré Yao Agbetsé, l'expert indépendant de l'ONU pour les droits de l'homme en fin de mission dans le pays. Parmi les principaux acteurs de violation des droits de l'homme se trouvent les rebelles, les forces armées centrafricaines, leurs alliés russes et les casques bleus de la MINUSCA. Avant de présenter son rapport à Genève, Yao Agbetsé a rencontré la presse vendredi à Bangui. Jean-Fernand Quinn.
Après une rencontre avec les autorités du pays, la classe politique, la société civile et un tour à l'intérieur du pays, Yao Agbetsé conclut sa mission sur une fausse note en matière des droits de l'homme. En tête, les groupes armés.
L'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le conflit ont commis des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. D'abord, les groupes armés, à travers leurs attaques des positions des FACA, des exactions au niveau des populations civiles, enfreignent au principe du droit international relatif aux droits de l'homme.
Outre les groupes armés, les forces armées centrafricaines, qui à elles seules représentent 58% des violations des droits de l'homme en seulement 3 mois.
Il y a également les forces de défense et de sécurité, les FACA, qui sont également responsables de multiples violations des droits de l'homme. Et d'après le rapport qui a été établi par la division des droits de l'homme de la MINUSCA pour la période allant de octobre à décembre 2022, par rapport à l'ensemble des violations qui ont été enregistrées, 58% pèsent sur les forces de défense et de sécurité, ce qui est énorme. Il appartient aux autorités étatiques de faire en sorte que les FACA opèrent de manière disciplinée en ayant les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission sur le terrain.
Un rapport qui n'épargne pas les alliés russes du gouvernement qui poursuivent les exactions contre les civils, mais aussi et surtout contre les représentants de l'État, Yao Adbetsi.
Il y a également les forces bilatérales qui sont responsables des enlèvements, des séquestrations, des exécutions sommaires. Cela est inacceptable. Non seulement ces violations sont exercées sur les populations civiles, mais également sur les autorités locales dépositaires de l'autorité de l'État. Il s'agit par exemple des préfets, des sous-préfets, mais également des maires ou des commissaires de police ou de gendarmerie qui sont aussi victimes des traitements humiliants et dégradants de la part des forces bilatérales russes.
L'expert de l'ONU montre aussi au créneau contre les casques bleus de l'ONU qui se seraient rendus coupables des violations des droits de l'homme, car du contingent gabonais déjà rapatrié dans l'aboutissement du dossier ne lui satisfait pas. Aussi, il dénonce le laxisme du gouvernement dans la suite judiciaire apportée aux violations alléguées liées aux alliés russes.
La coalition des organisations musulmanes pour la justice, l'égalité et l'équité comme GIEC dénonce les tracasseries dont font face les demandeurs des cartes nationales d'identité.
Cette organisation déplore les rackets perpétrés par les agents de police sur des civils à la direction des services de police judiciaire à Bangui. Position exprimée samedi lors d'une conférence de presse. Ali Ousmane, porte-parole de Comgec, en dit plus au micro de Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
Il est exigé de fournir un dossier comprenant des documents autres que ceux demandés à leurs compatriotes pour que cette discrimination, parfois, ce sont les originaux de leur acte de naissance et surtout ceux de leurs parents qui sont purement et simplement confisqués et ces derniers reçoivent des menaces en cas de réclamation. Tous ces obstacles sont créés dans le but de racketter en leur exigeant en coulisses une forte somme d'argent qui va parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs CFA avant de leur délivrer la carte nationale d'identité. De plus en plus, des compatriotes sont trop frustrés et souvent scandalisés de voir des étrangers obtenir très facilement par le biais de la corruption et de la fraude les cartes d'identité nationale centrafricaine.
La coalition des organisations musulmanes pour la justice, l'égalité et l'équité dénonce également l'occupation d'une portion du cimetière de Boeing par des riverains. Elle appelle les autorités à vite intervenir pour préserver un climat social apaisé.
À Bombari dans la Waka, le projet d'électrification en cours de réalisation crée déjà des mécontentements dans la ville.
Certains habitants dénoncent la non-prise en compte de leur quartier par le projet d'électrification en phase de finition. L'équipe sur le terrain évoque l'insuffisance des transformateurs et promet d'apporter une solution. On en parle avec notre correspondant Célestin Yetouman.
Les plaintes viennent des habitants des quartiers Kotakoli, Ndurukoli, Bingimale, Madiwaka, Sabalé et Saint-Joseph. Selon les plaignants, l'implantation des poteaux électriques n'est pas visible dans leur secteur, alors qu'ils ont besoin de l'énergie solaire.
L'ENERCA nous a informé auparavant que voilà, tout le monde devrait avoir l'énergie. Mais maintenant, le courant va passer dans les autres quartiers, mais chez nous, il n'y a pas le courant. Qu'allons-nous faire maintenant pour notre quartier? On aide des populations aussi de Bombari, de la Waka. Vraiment, je ne sais pas comment je peux dire. Il fallait que l'ENERCA fasse normalement son travail, surtout dans le quartier Madiwaka 1. Il y a de grandes ruelles qui passent dans mon quartier.
C'est déplorable dans notre zone, car depuis le pont Pladama jusqu'au petit marché, il n'y a pas de poteau électrique. Et à partir du domicile du maire, notamment au niveau de Congo Kitigra, jusqu'à Kotakoli, Ndurukoli, au niveau de l'ancienne radio, il n'existe aucun poteau. On s'interroge si nous sommes habitants de cette ville.
Les agents d'exécution du projet sur le terrain parlent d'insuffisance des transformateurs, car selon Bienvenue Greki Kri, chef de chantier, sur 14 transformateurs, seulement 7 sont disponibles pour toute la ville.
Moi, je suis limité par rapport aux 7 transformateurs qui nous est donné de l'entreprise de Diawara Solar pour installer. Donc, les autres lots de 7 transformateurs-là, c'est l'entreprise nationale ENERCA qui pourra vous donner les informations, peut-être cohérentes pour que vous puissiez informer la population.
La population espère sur les autorités centrafricaines pour une solution à cette omission, car l'équipe du projet sur le terrain souhaite confier les quartiers concernés à la charge de l'ENERCA, un mécanisme qui ne rassure pas les mécontents. Le projet d'accès et de renforcement du secteur de l'électricité PASEL vise à fournir 1 mégawatt-heure d'énergie à la population de Bombari à travers une centrale solaire photovoltaïque. photovoltaïques. Célestin, Yetoman, Bambari, Radio Ndekeluka.
Autre fait d'actualité, une innovation dans les activités de la douane centrafricaine.
La direction générale a lancé vendredi à Bangui le projet de géolocalisation des véhicules sur le corridor Bangui-Béloko, une réalisation en partenariat avec l'entreprise Mercure Logistique Centrafrique. Plus de 1000 appareils de localisation assurent désormais le contrôle de véhicules depuis Béloko jusqu'à Bangui. Frédéric Théodore Inamou, directeur général des douanes au micro de Igor Diaskin-Senapay.
L'avantage aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'avoir une traçabilité sur toutes nos importations. L'expérience a montré depuis un certain temps que, à la fin d'année, lorsqu'on prend les chiffres, le nombre de véhicules qui ont quitté, par exemple, Béloko, c'est toujours supérieur par rapport au nombre à l'arrivée ici. Or, aujourd'hui, je crois qu'on a déjà solutionné ce problème. Ça, c'est l'avantage. Deuxièmement, il y a aussi le frais, parce que lorsqu'on pose les GPS, il y a un frais, et ce frais-là aussi, une partie va rentrer dans la caisse de l'État. C'est déjà un plus aussi pour les recettes de l'État. 115 000 femmes, ils payent de l'autre côté de Cameroun, là-bas, non? C'est depuis
65 000 là-bas.
Voilà, 65 000. Ici, c'est juste plus 10 000. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau?
C'est selon le corridor Bangui-Béloko.
Ce serait sur l'ensemble du territoire centrafricain. Béloko aujourd'hui, demain Mongumba, après demain Beberati et ainsi de suite, là où il y a la sécurité et que les activités vont reprendre, on va tracer toujours nos importations.
Actualité africaine en bref, le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a pris fin hier à Addis Abeba en Éthiopie.
À la clôture des travaux, les protagonistes ont adopté des dizaines de décisions, de déclarations, de résolutions et autres mentions qui avaient été longuement discutées au sein du conseil exécutif de l'organisation. L'agenda du 36e sommet de l'Union africaine prévoit une conférence de réconciliation nationale en Libye sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le pays est plongé depuis plus de 10 ans dans une crise majeure. Cependant, la sanction contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont toujours maintenues par l'Union africaine et la CEDEAO. À l'occasion, Azali Assoumani, président comorien, a pris la tête de l'organisation pour un an après le président sénégalais Macky Sall.
Et puis en République démocratique du Congo, un conflit interethnique entre Teke et Yaka qui a débuté depuis quelques mois retarde le démarrage des activités de l'enrôlement électoral dans la province de Maïndombe.
La Commission électorale nationale indépendante dit attendre la stabilisation sécuritaire dans la zone avant de donner le coup d'envoi prévu en décembre dernier. Tout comme à Kinshasa, l'identification et l'enrôlement des électeurs avaient finalement été reportés au 16 février dans la province du Maïndombe, dans l'Ouest, mais jusque-là, ces opérations ne sont toujours pas lancées.
La page sport football, Cannes de moins de 20 ans, les Fauves de Bazoubangui entrent en compétition aujourd'hui.
Ils affrontent l'Ouganda tout à l'heure à 15h pour leur premier match. Après un stage à Casablanca au Maroc, les Fauves sont depuis vendredi matin en Égypte. L'objectif des Fauves est d'atteindre au moins les demi-finales pour se qualifier à la Coupe du Monde prévue en juin en Indonésie. Dans le groupe B, le Congo-Brazzaville jouera face au Soudan du Sud à 18h. Hier à l'ouverture au Caire, l'Égypte, pays hôte, a été tenu en échec par le Mozambique, 0 but partout. Le Sénégal s'est imposé devant le Nigeria 1-0 et prend donc la tête du groupe avec 3 points.
Basketball, éliminatoire zone 4 pour l'Afro-CAN. Les préparatifs démarrent aujourd'hui par la prise de contact avec des joueurs présélectionnés de la Ligue de Bangui.
Ils sont 18 joueurs issus de la Ligue de Bangui et de 10 pays africains convoqués en présélection. Bienvenue Bello, qui sont ces basketteurs présélectionnés?
Dans cette liste, on y trouve 4 joueurs de Bangui Sporting Club, Jordan Okoto, Tanguy Samedi, Michel Dimanche et Eli Dandon qui n'est pas encore présent à Bangui. L'équipe Abeille a aussi 4 joueurs, Cédric Metson Nambaï qui est en partance pour BSC, Pantelik Kokonenji, Christian Koseke et Wesley Serefio. Nutek Bantu Club est représenté dans cette présélection par 2 joueurs, Billy Kamayenge et Miguel Gallo. 2 joueurs sont aussi convoqués à Tandema. Il s'agit de José Maria Darlan et Vianney Kota. Le club B Asi est représenté par Sekinde et Gael Kopodia. Jordi Goni vient de Asopete, Innocent Morissi de Zarasclo et JC Yukwanga de Estongolo. Le groupe qui doit venir des pays africains est composé de Roderick Stéphane Kabilo et Dan Baigodari de la Côte d'Ivoire, Laurence Sanganafio et Omeganga Ife Komese du Burundi, Thierry Serge Darlan de la NBA Academy. Le jeune espoir centrafricain Thierry Serge Darlan, qui est actuellement aux États-Unis, s'est blessé dans le camp en marge des All-Star Games. Selon certaines personnalités, arrêté de la NBA Academy. Cette blessure n'est pas grave. Géraldine Nambaye viendra du Sénégal. Morel Ngewan, Malik Matsuka, Steven Perrier du Rwanda. Et enfin, Evans Ganapamo de l'Afrique du Sud. Le programme prévoit des entraînements et des matchs tests jusqu'au 14 mars. Le tournoi de la zone 4 est prévu du 19 au 26 mars prochain à Yaoundé au Cameroun.
Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite la version Sango. Dekiluka, dekiluka, dekiluka.